Voilà, bonjour à tous et à toutes. Comme Jonathan l'a dit en introduction, on va terminer aujourd'hui une série de trois prédications que l'on donne dans l'Église sur le thème « Être membre d'une Église locale ». Et si on a voulu cette série, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir un trouble, un doute par rapport à l'utilisation du mot « membre », par rapport à ce que signifie être membre. Et quand on est de bons Français, on a une vision qui est assez associative. On se dit, quand je suis membre de quelque chose, je suis membre d'un club sportif, je suis membre d'un club de loisirs ou membre d'une association quelconque. Mais la Bible nous présente une vision qui est complémentaire à celle-ci. Elle n'annule pas cette vision associative. Et la preuve en est que cet après-midi, nous allons avoir les assemblées générales de nos associations. Et on tient à être en conformité avec la loi française. Et c'est quelque chose qui nous est cher dans l'Église, et on en profite aussi pour aborder cette vision de ce que la Bible dit lorsqu'elle prononce, même si elle ne le prononce pas directement, le terme « membre ». Être membre d'une Église, ce n'est pas quelque chose que l'on voit apparaître clairement dans la Bible, dans se verbaliser comme ça, mais c'est une notion qui traverse vraiment l'ensemble de la Bible, et en particulier du Nouveau Testament. Et Raph et Stéphane, ces deux dernières semaines, ont répondu à deux questions qui sont comment et pourquoi devenir membre d'une église locale. Et puis aujourd'hui, donc, on va conclure ensemble en regardant un petit peu plus ce qui doit animer, comment doivent être gérées les relations au sein d'une église locale, entre membres d'une église locale. Et on va voir ça en deux parties ce matin. La première partie, c'est qu'on va voir qu'en résumé, en substance, nos relations doivent être animées par la soumission mutuelle. Nous devons être soumis les uns aux autres. Et puis, parce que nous devons être soumis les uns aux autres parce que nous sommes porteurs de l'image de Christ. Et puis, on va voir dans une deuxième partie que parfois, malheureusement, il y a des situations où cette image de Christ dont nous sommes porteurs est comme troublée, floutée, obscurcie par la présence du péché. Et auquel cas la Bible prévoit cette situation qui est une triste situation, et on va voir qu'elle le traite avec énormément d'amour et le désir que la personne se repente. Et c'est une situation qui amène l'Église à se mettre dans une position que l'on appelle la discipline formelle de l'Église. Tout d'abord, comment est-ce que l'on peut résumer tellement d'enseignements qui sont donnés dans la Bible en ce qui concerne les relations ? Les relations que doivent entretenir les membres dans l'Église. La Bible regorge de textes, truffés de textes qui montrent que la manière dont on va vivre nos relations au sein de l'Église va soit honorer, glorifier Dieu, soit le déshonorer. Il y a un défi qui est un défi majeur lorsque l'on parle de nos relations dans l'Église, c'est vraiment l'honneur de l'image que l'on va véhiculer de notre Seigneur Jésus-Christ qui est en jeu. Et en particulier, les épîtres de Paul fourmillent d'un tas d'informations sur les relations que doivent entretenir les membres d'une église locale. Alors, ça a été dur de faire un choix de texte et de se fixer sur un choix de texte, mais je crois qu'il y a un texte qui résume assez bien, globalement, la pensée biblique à ce sujet, et c'est Paul qui l'écrit dans l'épître aux Philippiens, et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Les textes vont s'afficher à l'écran, mais l'avoir devant les yeux, c'est encore mieux. En Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 2, et on va découper un petit peu ce texte ensemble pour voir quelle est la nature des relations que l'apôtre Paul nous appelle à vivre quand on est membre d'une église locale. Il y a des Bibles comme celle-ci qui sont dans vos bancs. Pour ceux qui ne sont pas coutumiers de la lecture biblique, sachez que c'est sur la page 771 que l'on trouve ce texte. L'église de Philippe est donc une église locale, ça pourrait être la nôtre en quelque sorte, et voici ce que dit l'apôtre Paul à cette église. « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Je ne sais pas ce que vous pensez de ce texte, mais le début est assez monochrome. Une seule couleur. un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Et l'apôtre Paul fait appel à cette notion d'unité tout simplement parce qu'il fait référence au fait que lorsque l'on est chrétien, chrétienne, nous sommes unis par des choses qui sont indissociables. Nous avons le même Père céleste. Nous avons le même ADN spirituel. Nous avons le même Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le même esprit qui nous lie et qui nous unit. Et c'est pour ça que c'est une image qui est très monochrome. Et lorsque l'on regarde cette unité qui est une unité qui est indépendante de notre propre volonté, c'est notre Père céleste qui tisse ces liens, qui soude ces liens et qui crée cette unité. Lorsque je regarde dans l'Église, je vois réellement mon frère ou ma sœur. Et les relations qui doivent nous animer, c'est des relations d'amour. Un amour altruiste. Dans notre monde, dire amour altruiste, c'est quelque chose d'intéressant, d'important, parce qu'on a perdu cette notion de l'amour. On ne sait plus vraiment ce que c'est l'amour. L'amour, c'est mon bonheur, c'est mon épanouissement, c'est ma satisfaction. Mais pour la Bible, un amour altruiste, c'est un pléonasme. Ça veut dire la même chose en réalité. Quand on aime notre frère, notre sœur, c'est que l'on obéit à la fin du verset 3, à ce que dit la fin du verset 3, c'est que l'on considère mon frère, ma sœur, comme supérieur à soi-même. Est-ce qu'on vit ces relations? Est-ce que vraiment, honnêtement, du fond du cœur, lorsque l'on considère nos frères et nos sœurs, on les considère comme supérieurs à nous-mêmes? Ou alors est-ce que c'est moi d'abord, moi en premier, ma satisfaction, mon plaisir, c'est mon état qui me préoccupe? Ou alors est-ce que mes yeux sont tournés vers mes frères et mes sœurs de l'Église? En faisant passer nos intérêts avant ceux de mes frères et de mes sœurs, on trahit ce que dit la parole de Dieu. Et la suite de ce texte de Philippiens 2, à partir du verset 5, dit la chose suivante. « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. » Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Ce que dit Paul ici, c'est qu'en étant conscient du fait que l'on est uni par des liens qui sont des liens qui nous dépassent, des liens qui sont tissés par Dieu lui-même, en étant conscient du fait que l'amour qu'on est appelé à exercer dans l'Église locale est un amour altruiste, un amour qui pense à l'autre avant de penser à nous-mêmes, on imite l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ. On devient des imitateurs de Christ. On devient des petits Christ. Et c'est l'étymologie du mot chrétien. Lorsqu'on dit chrétien, c'est on est des petits Christ. On est des imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être ce sont des notions qui sont sues, vues, entendues, rabâchées. On s'endort presque sur ces notions, mais elles sont fondamentales. Et si on ne les vit pas, et en particulier au sein de l'Église locale, on est complètement à côté de la plaque. Nous sommes des petits Christ. Nous sommes des ambassadeurs de son image, des porteurs de son image dans l'Église locale. C'est comme ça que doivent être caractérisées nos relations. Et pourquoi avoir ces relations? Paul continue au verset 14 et au verset 15, en nous donnant tout un programme, « Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. » L'enjeu est énorme. L'enjeu est énorme. En vivant des relations communautaires telles que ce texte et telles que la Bible nous l'enseigne, en vivant des relations au sein de l'Église locale qui sont des relations saines, empreintes d'amour, un amour au sens biblique du terme, un amour qui regarde l'autre comme supérieur à nous-mêmes, qui prend soin de l'autre, qui soigne l'autre. Nous sommes imitateurs de Jésus-Christ et c'est le meilleur, le plus grand, le plus fort des témoignages que l'on peut rendre à travers notre vie communautaire. Au début des années 2000, on a organisé dans l'église une série de repas-concerts. Et certains s'en souviennent sans doute. Et c'était des événements que l'on a créés dans l'église avec un temps de, comme son nom l'indique, un temps de repas qui était entrecoupé par des moments de chant. Et avec le groupe de musique, je me rappelle à l'époque, on a passé des semaines et des semaines à préparer ces repas-concerts. On a été vraiment sur le pont, on a mis du soin à réfléchir aux interventions que l'on allait mettre entre les chansons de manière à ce que ce soit fait d'une manière intelligente. Et on a eu raison de faire ça. On a eu raison d'être précautionneux par rapport à tout ça et de mettre le temps et l'énergie. Et puis le but, c'était bien sûr de présenter le message de l'Évangile. Et pour ma part, j'ai invité un collègue de travail avec sa compagne. Ils sont venus. Et puis à la fin de la soirée, je leur ai posé la question fatidique, c'est « ça vous a plu ?» Et bon, bonne nouvelle, il a trouvé ça très chouette. Oui, c'était vraiment super sympa, c'était vraiment chouette. Et puis, j'avais pas envie d'en rester là. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que tu as des questions à poser? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a titillé, intéressé, interpellé? Enfin voilà, vous savez, on ne sait jamais trop comment aborder cette notion-là pour aller un cran plus loin dans la discussion. Et cet ami m'a dit, mais ouais, il y a un truc qui m'a interpellé. Je me suis dit, c'est une belle occasion de continuer la discussion. Et il m'a dit, ce qui m'a interpellé, c'est que les gars dans l'église, ils se font tous la bise. Vous savez, j'étais... je revoyais défiler les heures et les semaines de préparation et l'énergie qu'on avait mis là-dedans. Et lui, ce qu'il a noté, ce qu'il a marqué, c'est que les gars dans l'église se font la bise. Je travaille encore avec lui, avec ce collègue de travail. On est vraiment très liés tous les deux. Mais c'est le témoignage le plus fort que l'on a rendu. Alors messieurs, je vous mets à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de faire la bise, vous ne sentez pas coupable, d'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans cette soirée, pour moi, ça a été le cas d'école qui m'a montré d'une manière très concrète ce que j'avais peut-être vu comme une théorie pendant des années. C'est qu'à travers notre vie communautaire chrétienne normale, on témoigne d'une manière qui nous dépasse. On vit des choses quand on vit l'Église. On vit des choses quand on vit l'église locale, quand on est ensemble, quand on a nos liens ensemble, quand on pleure avec ceux qui pleurent, quand on se réjouit avec ceux qui se réjouissent, quand on prend des nouvelles les uns des autres. On vit des choses paranormales par rapport à ce que vit le monde. On s'en rend même plus compte. En se faisant la bise, on touche des gens. On est appelé à se soumettre les uns aux autres, à se soumettre à l'Église, parce que nos relations doivent refléter l'image de Christ. On est porteur de l'image de Christ. Il y a dans la Bible, au moins, et Jonathan nous a lu un texte ce matin dans Hébreux 10 qui échappe même à ça, donc il y en a plus que ça, il y a au moins 25 utilisations différentes de l'expression « les uns les autres ». Et on avait eu un week-end de jeûne, je me rappelle, c'est Daniel qui avait prêché sur ce week-end de jeûne, où on avait vu pendant un week-end ces expressions, les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres. Et c'est étonnant de voir comment la Bible est pleine de cette réciprocité, pleine de cette mutualité. Et j'en ai dénombré au moins 25, mais il y en a plus, il y en a au moins 26 donc, avec Hébreux 10. Et on n'a pas le temps de les lire, mais aimez-vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns des autres, exercez l'hospitalité les uns envers les autres, etc. etc. Et vu que je n'ai pas le temps de les lire, mais qu'ils sont tellement beaux et qu'ils sont tellement nourrissants, je me suis permis de les mettre sur une petite feuille, vous pourrez la prendre, elle est à la sortie, servez-vous librement et méditez sur ces les uns les autres. Franchement, ça vaut la peine. Vous verrez le nombre de références bibliques qui sont associées à chaque expression les uns les autres. Et ces petites feuilles seront disponibles au fond sur le comptoir, servez-vous vraiment librement. Mais cette réciprocité, c'est ce qui témoigne. Le fait que l'on vit pleinement les uns les autres, le fait que je regarde mon frère et ma sœur avec cet esprit de serviteur qui animait notre Seigneur Jésus-Christ, ça témoigne. Concrètement, il y a des choses qui sont parfois dérangeantes, qu'on a du mal à aborder du haut de la chair, mais est-ce que j'ai intégré cette réciprocité? Le fait que je suis redevable à mes frères et mes sœurs, Est-ce que j'ai intégré ça dans certains domaines très concrets de ma vie? Par exemple, est-ce que au moment de choisir, si j'ai eu le choix, d'accord, évidemment, parfois on n'a pas le choix, mais au moment de choisir mon lieu d'habitation, est-ce que j'ai intégré ça? On peut se dire, là, ça va trop loin. Là, tu touches limite l'intimité, c'est de la, tu rentres dans la vie privée des gens. Ça ne va pas, mais... Est-ce que, si j'ai eu le choix, et on n'est pas en train de parler, comme le disait Jonathan, de se rapprocher du local église, l'église, ce n'est pas le local, l'église, ce sont les frères et les sœurs qui constituent l'église. Mais lorsque j'ai réfléchi à mon lieu d'habitation, est-ce que j'ai réfléchi à cette nécessité, à cette vitalité, c'est vital, d'être proche, d'être en contact, en relation avec mes frères et mes sœurs? Est-ce que j'ai intégré cette notion-là dans mon choix? Est-ce que, lorsque je choisis mon emploi, ou lorsque je choisis pour les jeunes mon orientation scolaire, est-ce que je réfléchis honnêtement à est-ce que je vais pouvoir me garder un petit peu de temps pour avoir des relations avec mes frères et mes sœurs? Parce que vous savez, le temps, on dit c'est de l'argent, en fait c'est bien plus que ça, c'est beaucoup de choses. Est-ce que j'ai intégré ces notions-là dans mon choix de carrière? Est-ce que dans mon choix de carrière, si je suis aujourd'hui en emploi, je suis prêt à dire non à une promotion pour garder du temps pour être en relation avec mes frères et mes sœurs, pour garder du temps pour faire une visite, pour poser une main sur une épaule, pour dire je suis ton frère, je t'aime, et si tu souffres, je souffre. Est-ce qu'on intègre ça dans des domaines qui sont très concrets, limite intrusifs en réalité? Mais vous savez quoi? C'est dans ces choses qui sont très concrètes, presque intrusives, que l'on voit le cœur, que l'on voit ce qu'il y a au fond de notre cœur. Est-ce que je suis capable de prendre des décisions, de faire des choix et de les assumer par rapport à ces domaines-là, mon lieu d'habitation, mon emploi? Est-ce que j'intègre le fait que l'église locale est le lieu non pas exclusif, mais privilégié pour l'exercice de mes dons? Est-ce que j'intègre le fait que l'église locale, c'est le lieu privilégié pour intercéder pour mes frères et pour mes sœurs? Et on a voulu les groupes de semaines dans l'église pour ça, pour gagner en proximité, pour vivre pleinement l'église locale, pour que réunis géographiquement, de manière proche, qu'on puisse prier les uns pour les autres. On vit dans mon petit groupe de semaines des choses qui sont extraordinaires avec la prière. Je pense que mes frères et sœurs qui participent au groupe de semaines pourraient témoigner de ça. Parce qu'on prie pour nos familles respectives. Parce qu'on prie pour des choses qui sont intimes, qui sont nos vrais soucis. Les soucis du quotidien. Est-ce que j'ai intégré ça lorsque je choisis d'être membre d'une église locale? Et est-ce que je me défie dans la foi dans mon église locale avec mes frères et mes sœurs, en discutant, partageant autour de la parole de Dieu? Est-ce que j'intègre ces choses-là? On est porteur de l'image de Christ. On est porteur de l'image de Christ. Il y a parfois des situations où le péché vient obscurcir cette image, vient altérer cette image dans l'Église. Et à ce moment-là, la Bible nous donne un processus qui est un processus disciplinaire qui doit s'exercer au sein de l'Église. Et on va continuer ce temps de prédication en décrivant un petit peu plus ce processus disciplinaire, mais je voudrais commencer par trois remarques avant d'entamer cette étude. La première chose, c'est qu'en s'abstenant de discipliner, on prétend aimer mieux que Dieu. On n'aime pas discipliner. On n'aime pas se discipliner et on n'aime pas discipliner les autres. J'allais presque dire parfois on aime encore moins discipliner les autres parce qu'on a peur. On a cette crainte qui est là, qui est sous-jacente de dire comment est-ce qu'il va le vivre, comment est-ce qu'il va le prendre, etc. Et vous allez voir que la Bible est empreinte d'amour dans ce processus, parce que c'est un processus qui est douloureux, mais c'est quelque chose qui est fait avec amour, et la Bible nous demande de le pratiquer avec amour. Et ce sont les mots même du Seigneur Jésus-Christ que l'on verra à ce sujet-là. Mais dans Hébreux 12, verset 6, la Bible dit que le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. C'est une drôle d'attitude, je relis. Le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. il y a une portée éducative dans l'Église de la discipline. La deuxième remarque, c'est que la discipline se fait très souvent d'une manière informelle. Mais de temps en temps, dans certaines situations de péché, il y a la nécessité d'appliquer une discipline d'Église que j'ai appelée plus formelle en réalité. Cette discipline, elle a pour but de corriger le péché. Corriger le péché de manière à défendre l'image de Christ dans l'Église, de manière à ce qu'elle ne soit pas altérée, et de manière à ce que la personne qui est dans cette situation de péché revienne, et revienne le plus vite possible. Le but, l'objectif, la cible, c'est le retour de cette personne. C'est que cette personne se repente de son péché et réintègre pleinement la vie communautaire et puisse de nouveau refléter l'image de Christ. À la lecture de la parole, on se rend compte que la discipline d'Église n'est pas exigée dans toutes les situations. Et Stéphane nous a dit la semaine dernière que l'Église était un hôpital pour pécheurs. Si on devait appliquer la discipline d'Église à chaque fois qu'il y a un péché, nous serions tous sous discipline. Moi le premier, j'ai envie de dire, c'est de bonne aloi, mais c'est vrai. On serait tous sous discipline si on devait appliquer ça à l'ensemble des pécheurs que nous sommes. Et il y a des situations, quand on lit les différentes situations de discipline qui sont évoquées dans la parole de Dieu, il y a des situations plus particulièrement ciblées par la Bible qui revêtent un caractère tel qu'il est nécessaire d'entamer un processus disciplinaire. Et en fait, on retrouve trois traits, en quelque sorte, de péché qui, cumulés, nécessitent cette discipline d'Église. Tout d'abord, le premier trait, c'est lorsque les péchés sont extérieurs. Ça concerne des péchés qui sont visibles, des péchés qui sont connus, non pas des péchés cachés où on imagine, parce qu'on pourrait jouer à un grand jeu de devinette, quel est le péché qui est caché en toi. Et ce n'est pas du tout l'objectif. Le péché doit être visible. S'il doit être soumis à la discipline d'Église formelle, c'est quelque chose qui doit être su, qui doit être connu. Ça ne veut pas dire que les péchés qui sont dans le cœur ne sont pas des péchés importants. Ça veut simplement dire que ces péchés, on en a tous, et on est amené à les traiter par un processus de sanctification, par de l'édification mutuelle les uns et les autres. Et de toute façon, si ces péchés revêtent une importance forte, ils finiront par sortir, par se manifester à un moment ou à un autre. Ça, c'est le premier caractère de péché qui est à traiter par la discipline. Le deuxième caractère, il faut que ce soit un péché grave. Alors, vous avez vu que j'ai mis des guillemets autour de grave, parce que ça sous-entendrait que les péchés pas graves existent, ce qui n'est pas vrai. Tous les péchés sont graves. La Bible condamne sans aucune alternative et sans aucune exclusive l'ensemble des péchés. Mais il y a des péchés qui sont plus particulièrement susceptibles d'être soumis à la discipline d'Église. Il y a un texte dans la Bible qui est étonnant et qui est même, en même temps tellement rassurant. 1 Pierre 4, verset 8, je vous l'ai mis ici. « Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une multitude de péchés. » Est-ce que ça veut dire que l'on masque, on dissimule le péché ? Certainement pas. Certainement pas. Mais l'amour prévaut. L'amour pardonne. L'amour a ce désir de réintégrer la personne, de soigner le péché, de soigner le pécheur, et de faire en sorte que cette personne revienne. C'est par l'amour que l'on a décrit juste avant que l'on veut procéder dans cette discipline d'Église. Alors c'est quoi un péché grave ? C'est tout un problème ça. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant un péché grave ou un péché pas grave ? Au final, on se rend compte quand même dans la parole de Dieu, à travers les cas disciplinaires qui sont traités, c'est qu'un péché grave, c'est un péché qui est tel qu'on ne peut plus reconnaître la profession de foi de la personne. Se dit cette personne, en fait, on a un doute sur l'authenticité de son salut. C'est quelqu'un qui a professé par sa bouche sa foi, qui a dit qu'elle était chrétienne, ou même peut-être qui continue à le dire, mais ses actes, manifestement, montrent qu'il y a un énorme problème, quelque chose qui est tellement profond qu'on peut cataloguer ce péché comme étant grave. Et vous allez voir qu'à travers le troisième critère, on a un filtre supplémentaire qui va un petit peu en lien avec cette notion de gravité du péché, c'est que les péchés qui sont concernés sont des péchés impénitents. C'est-à-dire que la personne, tout en étant consciente de ce qu'elle pratique, n'y voit pas un problème. Des péchés non repentants. La personne ne se repent pas. Manifestement, il y a une forme de complaisance dans sa situation de péché. Et auquel cas, lorsque le tableau recoupe l'ensemble de ces trois péchés, vous voyez que ce n'est pas n'importe quelle nature de péché qui est soumise à la discipline formelle d'Église. Eh bien, lorsque on recoupe l'ensemble de ces trois caractères du péché, à ce moment-là, la discipline d'Église est à appliquer. Je vais terminer sur, très rapidement, le texte qui est le texte, peut-être référence, sur la manière dont on applique la discipline d'Église. Et je vais terminer sur ce texte. C'est dans Matthieu, au chapitre 18, que l'on retrouve ce texte, à partir du verset 15 et jusqu'au verset 18. Et on va simplement le lire petit à petit et voir ces mots que le Seigneur Jésus lui-même prononce, comment ils sont appliqués, et voir l'état d'esprit de notre Seigneur. Et vous allez voir que le tact, l'amour, la patience de notre Seigneur est absolument formidable, extraordinaire, dans des situations qui sont pourtant des situations lourdes, avec des péchés qui sont des péchés graves, des péchés connus et des péchés impénitents. Tout d'abord, si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Dans la discrétion, pour préserver son image, pour préserver sa personne, de manière à ce que on ne fasse pas un esclandre, parce que l'Église n'est pas le lieu des esclandres. Si ton frère a péché, si tu l'as vu, va, reprends-le seul à seul. N'ébruite pas forcément la chose. Encore une fois, le but, ce n'est pas de dissimuler. Le but, c'est d'exercer un amour altruiste. L'amour qui fait que je veux préserver mon frère et ma sœur, je veux lui dire, tu es en faute, je viens de te voir commettre un péché, ou je sais qu'il y a un péché dans ta vie, il faut que tu traites ce péché et je veux prier pour toi, je veux être avec toi. Et exercer cette discipline de cette manière-là. Et si cette première étape fonctionne, regardez les mots, c'est magnifique. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est pas extraordinaire, ça. C'est pas plein d'amour, c'est pas plein de récompense. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et le processus de discipline s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Si malheureusement cette première étape ne conduit pas à la repentance, alors l'étape suivante, c'est d'avertir, d'informer deux ou trois autres frères ou sœurs de l'Église, de manière à ce que ces personnes puissent venir constater l'état du péché et pouvoir émettre un avis aussi en disant « effectivement, c'est un péché grave, c'est quelque chose qu'il faut que tu soignes, c'est quelque chose que tu ne veux pas reconnaître, tu es impénitent par rapport à ça, etc. etc. » Donc, avertir deux ou trois autres personnes de manière à ce qu'ils viennent confirmer simplement ce qui se passe. Et encore une fois, un temps sans aucun doute relativement long qui s'écoule à chaque fois entre ces différentes étapes de manière à avoir la patience de soigner le péché. S'il refuse d'écouter, c'est l'ensemble des membres qui doit être informé. Et dans notre Église, c'est fait par les anciens, et toujours avec l'objectif que la personne revienne le plus tôt possible. Et là, on est déjà tard, en réalité, dans le processus, parce que chaque étape prend du temps. Mais l'objectif, c'est que la personne revienne. Reviens, mon frère, repens-toi, s'il te plaît. Et enfin, si après avoir pris le temps d'exercer cette discipline dans cet ordre-là, la personne refuse toujours d'écouter, alors à ce moment-là, il faut exclure la personne des rassemblements de l'Église. Et ça revêt plusieurs caractères qui dépendent vraiment, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Parfois, il faut demander à la personne de s'abstenir de venir au rassemblement parce qu'elle peut revêtir une forme de danger, entre guillemets, pour l'ensemble de la communauté. C'est le péché lui-même qui revêt cette forme de danger. Et puis parfois, c'est un bénéfice pour cette personne de continuer à venir dans les rassemblements. Donc quand on parle d'une exclusion, c'est simplement le fait de dire, mais à travers ce que tu fais et la discipline qu'on est en train d'engager par rapport à toi depuis ces mois et ces mois que l'on te parle et qu'on te met face à ton péché et que tu ne le reconnais pas, on veut te dire qu'on ne peut plus te reconnaître comme étant une personne qui manifeste la vie du chrétien. tu ne manifestes plus la vie d'un chrétien. Donc on ne peut plus te considérer, te faire agir dans l'Église comme étant un frère ou une sœur en Christ. C'est une quatrième étape, elle est dramatique. Je dis juste un mot avant de conclure sur ce dernier verset qui a fait couler beaucoup d'encre. Et un verset qui donne des frissons dans le dos un petit peu. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même qui les donne. Il a donné l'autorité à l'Église d'émettre ce jugement. Il a donné l'autorité à l'Église de lier et de délier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ce que je viens de dire au préalable. De dire simplement, tu ne manifestes plus la vie du chrétien. La profession de foi qui est sortie de ta bouche est incohérente avec tes actions. Complètement incohérente. Et ça veut donc dire qu'il y a des conséquences sur terre qui sont par exemple le fait de dire à cette personne, tu n'es plus apte à exercer ce type de ministère. Tu n'es plus apte à intervenir dans l'Église à cette responsabilité-là. Tu ne peux plus. C'est incohérent. C'est incohérent. Et dans ce sens-là, on lit et on délie. Et je veux apporter une information complémentaire, évidemment, c'est qu'à aucun moment, l'Église décide qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. C'est Dieu, ça. Ce n'est pas du ressort de l'Église. Et Dieu rétablira toute chose juste lorsque l'on comparaîtra devant lui. Et peut-être le jugement de l'Église sur terre, sur telle ou telle situation, aura été erroné. Peut-être on se sera trompé dans telle ou telle situation. Mais faisons confiance à la justice de notre Dieu. Il rétablira toute chose. Mais Jésus-Christ a donné cette autorité à l'Église sur terre, de manière à lier et délier. Et quelle joie! Quand le plus tôt possible dans ce processus, le frère ou la sœur revient. Je vous assure, c'est un vrai bonheur, un soulagement aussi que de ne pas avoir à aller plus loin. Mais c'est un vrai bonheur que de voir la personne se repentir et dire « j'ai fauté et je suis repentant devant toi Seigneur, je suis repentant devant toi ». Lorsque la repentance arrive, elle est accompagnée de fruits, et ces fruits sont à voir, à observer simplement. Et ça aussi, ça prend un petit temps. C'est-à-dire que la restauration ne peut pas être immédiate. Il faut prendre du temps, de manière à observer le fruit de la repentance. Mais si ce fruit existe, il est hors de question de considérer ce frère ou cette sœur comme un chrétien de seconde zone. On le rétablit. Ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir réexercer la totalité des ministères possibles et imaginables dans l'Église. Peut-être qu'il sera sage de lui demander de s'abstenir d'exercer tel ou tel ministère. Mais je dois le considérer comme mon frère, lui amener le même amour altruiste que l'on a décrit tout à l'heure, le considérer comme étant uni au corps de Christ auquel nous sommes unis. Les relations que l'on doit avoir entre frères et sœurs dans l'Église, ce sont des relations de soumission mutuelle, de considérer l'autre comme étant supérieur à moi-même. J'ai une question rhétorique, un peu bateau, banale. Est-ce que je le fais ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que je le vis ? Est-ce que je considère mon frère ou ma sœur comme supérieur à moi-même ? Ça fait presque peur. Dites-vous bien que si vous le considérez comme supérieur à vous-même, lui, sa fonction, c'est de vous considérer comme supérieur à lui-même. Il y a une mutualité, une réciprocité qui fait qu'on vit des liens sains au sein de l'Église locale. Et on devient porteur, on est porteur de l'image de Christ. Et malheureusement, quand cette image est troublée, on applique la discipline d'Église telle que je viens de la décrire. J'espère que cette série, on a couru un petit peu dans ces prédications, mais j'espère que cette série de 3 prédications vous aura donné, redonné ou surmotivé pour l'amour de l'Église. Voir que l'Église locale et l'Église universelle sont en réalité confondues, que l'Église locale est un avant-poste de l'Église universelle, que nous sommes les ambassadeurs ici, dans cette ville, de l'Église, du corps de l'Église que nous sommes. Et ne pas faire une différence énorme entre l'Église locale et l'Église universelle. D'ailleurs, dans la littérature, on ne retrouve plus cette différence. Nous vivons à l'échelle réduite, à l'échelle Grenoble-Centre, l'Église universelle. Est-ce qu'on en est conscient ? Et je voudrais nous laisser simplement avec ces 2 versets de Jean 13 qui devrait être quelque part un peu écrit sur notre fronton, ou un mot d'ordre pour notre vie d'Église. Des paroles de notre Seigneur. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Aimons-nous les uns les autres. Vivons des relations de membres à part entière dans notre église locale. C'est le vœu des responsables, c'est le vœu, je crois, de beaucoup, beaucoup d'entre nous. Et donnons-nous les moyens de pouvoir vivre ces relations. Amen.